cet exposé que je vous apporte aujourd'hui, je voudrais l'intituler quelque chose comme « Monsieur Napoléon ». Je voudrais essayer de m'approcher de son identité intérieure. Et je me rends bien compte que j'ai dû jusqu'à présent scandaliser, irriter, agacer un certain nombre d'auditeurs. Beaucoup d'entre vous ont dû se dire, enfin, tout de même, qu'est-ce que c'est cette entreprise de dénigrement. Enfin, il y a un petit cuistre d'un côté, puis il y a l'incomparable météore de l'autre, il y a le roquet et la statue. Je sais, c'est très facile d'éliminer ce qui gêne pour faire un portrait. Quand on travaille dans la géographie, on élimine le mal. Quand on travaille dans le dénigrement, on élimine le bien. Eh bien, je vous assure que j'ai cherché, mais que j'ai vraiment passionnément cherché le bien. C'est très désagréable de parler de quelqu'un qui ne vous est pas sympathique. L'année dernière, quand je travaillais sur la Révolution française, j'avais des hommes comme Robespierre, comme Saint-Just, comme Couthon, pour lesquels je sentais un élan. Devant Napoléon, je suis glacé, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de l'histoire, qu'est-ce que vous voulez. Je crois qu'on peut dire que Napoléon n'a pas de pire ennemi que l'histoire. C'est entendu, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord. Il y a des mérites. Ben, quel mérite? D'avoir une intelligence hors ligne. Pas de question. C'est un homme très subtil, très rusé, qui a du coup d'œil. Deuxièmement, c'est un grand gagneur de bataille. Là, il y a une phrase de Chateaubriand invraisemblable, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est au moment où Chateaubriand était tellement furieux contre Napoléon de Buonaparte et des Bourbons, 1814. C'était un grand gagneur de bataille, mais hors de là, le moindre général était plus habile que lui. Ben, il en a de bonnes, enfin, c'est tout de même l'essentiel pour un général de savoir gagner des batailles. Puis il y en a tellement qui se gonflent en ayant perdu les batailles que tout de même, il faut lui laisser ça. Hein. Mon incompétence est très grande dans le domaine militaire. Alors c'est avec timidité que je vous apporterai tout de même une seule remarque. C'est une petite note de Napoléon au maréchal Soult, le 5 octobre 1806, où il lui donne, si j'ose dire, son procédé. « S'arranger toujours, écrit Napoléon, s'arranger toujours pour attaquer l'ennemi avec des forces doubles des siennes. » Il ne faut pas oublier, c'est ce qui avait déjà excité les Girondins, il ne faut pas oublier qu'à l'époque dont nous parlons, la France était la plus peuplée de l'Europe, moins la Russie bien entendu. Mais il était infiniment plus peuplé que l'Angleterre, infiniment plus peuplé que la Prusse, que l'Autriche. C'était, comme dit Chateaubriand, un grand nid de soldats. Parce que c'est quand Napoléon pouvait toujours se dire « J'ai dans les réserves de la France même de quoi avoir toujours une supériorité numérique ». J'ajouterai d'autre part que tout de même, c'est aussi sur le terrain et en race campagne que ça a très mal fini. Mais terminons là-dessus parce que vraiment je suis trop incompétent en affaires militaires. Regardons donc l'individu. Ben d'abord, il était petit. Il avait 1,64 m. Il était petit et il avait beaucoup changé d'aspect entre le temps du consulat et le temps de l'Empire. En 1800, par exemple, vous le voyez ici, en 1800, ben c'est un homme assez maigre. Regardez ce qu'il est devenu en 1805. C'est un monsieur joufflu. Puis si vous vous rappelez le générique que vous venez de voir il y a un instant, c'est 1812. Alors c'est pas seulement un joufflu, c'est un bouffi, il a fait une espèce de plein de soupe avec un gentil petit sourire satisfait. Plus tard, quand il est à Sainte-Hélène, là, toujours l'interminable conversation avec Bertrand, qui sont tellement enrichissantes, il lui dit un jour, quand je me rappelle ce que j'étais au moment de la campagne d'Italie, je n'avais pas beaucoup d'allure, je suis beaucoup mieux maintenant. Maintenant, 1816, il est obèse. Eh bien, il est très content d'être gros, ça lui paraît un signe évident de santé. Il est aussi très content de ses mains. Perpétuellement, il s'amuse avec ses mains. Quand il est dans les réceptions, par exemple, le conseiller d'État, où il s'ennuie beaucoup, ou quand il reçoit ses ministres, il fait manœuvrer ses mains. Et il dit, il répète même volontiers, les Bonaparte ont toujours eu de très belles mains. Il a malheureusement toujours le nez souillé de tabac. J'ai trouvé, c'est dans un livre de Dr Locard, une chose assez intéressante, c'est un signalement de Napoléon qui avait été remis en 1812 aux officiers russes au cas où on le ferait prisonnier. Et on disait, il y a un signe auquel vous le reconnaîtrez, c'est qu'il a toujours le bas du nez noir, parce qu'il prisait terriblement. Constant Levallée-Chambre nous raconte que dans toutes les séances, où, par exemple au conseiller d'État, où il passait des heures, il fallait qu'un domestique se tînt debout derrière lui avec une tabatière, et tout en discutant, Napoléon tendait la main, prenait la tabatière, se jetait du tabac dans le nez, puis rendait sa tabatière, et il en prenait tellement qu'il en faisait de consommation de 4 à 5 tabatières. Autre détail, sa maladie, son état. Non, il ne sera malade que vers la fin. À partir de 1817, ça n'ira plus. Mais jusqu'à 1817, il se porte bien. Toutefois, il y a des gens qui disent encore aujourd'hui, il était épileptique. Et on nous apporte deux documents. Un document qui a été révélé par Constant, le valet de chambre Constant, c'est d'une dame du palais dont on ne donne pas le don, mais on sait aujourd'hui que c'était Madame de Vaudet, qui avait été du reste la maîtresse, comme tout le monde, de Bonaparte. Et Madame de Vaudet dit, je l'ai vue une fois, qui est tombée sur le tapis, devant sa femme, qui bavait, qui était dans une espèce d'état de convulsion. Ça, c'est 1804. Et puis, il y a Talleyrand qui racontera qu'en 1805, il a vu également des signes d'épilepsie chez Napoléon. Je n'en sais rien. Bourrienne, qui ne l'aime pas et qui a écrit des mémoires, Bourrienne dit « C'est faux de dire que l'empereur était épileptique. Il ne l'était pas. » D'autre part, nous avons toutes sortes de détails quotidiens, vous savez, minutieux, sur sa vie à Sainte-Hélène. On peut donc le suivre de 1815 à 1821, jour par jour. Mais il n'arrive rien qui soit d'ordre épileptique. Alors, comme je suis quand même compétent encore plus là qu'en matière militaire, j'ai demandé à des médecins, j'ai interrogé à droite et à gauche, et on m'a dit qu'il ne serait pas impossible que ces deux événements, qui ont eu des témoins, mais il y en avait peut-être eu d'autres, où il est tombé par terre, comme ça, avec convulsion, pourraient être ce que l'on appelle les accidents tertiaires dus à la syphilis qu'il avait vraisemblablement attrapé devant Toulon. Autre petit détail, c'est un homme qui aime abîmer les objets. Il a un canif, et quand on lui parle, il taillade le bois de son fauteuil. Ce mobilier national, ça compte pas, on le change. Enfin, il taillade toujours le bois de son fauteuil. Autre détail, il a toujours les culottes de satin blanc, et il trempe sa plume très volontairement dans l'un, comme ça, et l'essuie sur son pantalon blanc. Et puis, comme on entend lui dire, en fait, même si ce n'est pas comme là, il faudrait changer de pantalon, il fait taire les gens. Alors, toute la journée, il se promène avec son pantalon maculé. On sait également, toujours par constant, que quand il était à la Malmaison, où sa femme Joséphine avait des bêtes dans le jardin, des oiseaux rares à qui il avait coupé un morceau de l'aile, vous savez, pour qu'ils ne puissent pas s'envoler, et des plantes rares dans les serres, il aimait, de temps en temps, par la fenêtre, tirer des oiseaux, des ibis, par exemple. Ça l'amusait d'être des oiseaux. Ou encore, arracher des plantes rares. Il ne détestait pas Joséphine, mais en fait, c'est une espèce de mécanisme. Quand il voyait une plante dont on lui disait qu'elle était particulièrement intéressante, il l'arrachait. Autre détail, toujours de constant, quand il rentre dans sa chambre le soir pour se déshabiller, il jette ses habits par terre. Ça, c'est parce que ça lui rappelle le temps où il était pauvre et qu'il était obligé de plier ses habits lui-même, quand il était le petit Corse, vous savez. Maintenant qu'il a 1, 2, 10 valets de chambre, ben, il les jette par terre, le valet de chambre s'en occupera. Ses montres aussi. Ses montres, quand il entre dans sa chambre à coucher, il les lance d'habitude sur le lit. Il rate le lit de temps en temps, dans la montre se cassera, mais enfin, puisqu'il a ses 25 millions de dollars annuels, c'est pas important. Les bains. Il adore les bains. Il a découvert ça après la Corse. En France, quand il a été nommé général de brigade, quand il était au Château Salé, la première fois qu'il était un monsieur avec des aides de camp, eh bien, les bains, c'est un goût qui ne lui passera pas, qui même deviendra de plus en plus extraordinaire chez lui. Il restera des heures dans les bains. C'est un homme aussi qui adore les parfums, se couvre de parfums. Il écrit extraordinairement mal, et on a supposé que s'il écrivait mal, c'est un peu exprès, parce qu'il sait très mal le français. C'est inouï d'entendre des gens nous dire encore aujourd'hui, c'est un grand écrivain français. Mais il n'y a presque rien qui soit certainement de lui. Il dictait le mémorial, c'est Lasca ce qu'il a écrit, ses proclamations, ses bulletins, c'était les scribes qui lui fabriquaient. On ne connaît à peu près rien qui soit certainement de Napoléon, sauf le texte de 1891, vous savez, le discours à l'Académie de Lyon, où il y a du reste d'assez jolie bévue. Il nous est rapporté, par exemple, que dans le vocabulaire, il faisait des fautes. Session, la session du corps législatif, vous ne pouvez pas dire ça, c'est toujours section, texte militaire, terme militaire. Il ne pouvait pas dire amnistie, il se trompait toujours, il disait armistice. D'autre part, c'est un homme qui avait, dit Talleyrand, de sombres manières. Talleyrand n'avait pas toujours des manières tellement distinguées. Vous savez, il faisait semblant d'être aristocrate, super aristocrate. À propos de sombres manières, il y a ceci à table, c'est encore Constant qui nous le dit. Et Constant, vous savez, c'est un valet de chambre plein de révérence, hein, qui ne cherche pas à diminuer son maître. Il dit que de temps à autre, Bonaparte préférait de beaucoup l'usage des doigts à l'usage de la fourchette, en particulier pour le poulet. Et puis, quand un plat lui plaisait, il demandait à Constant de le mettre devant lui, à table. Il y avait, je ne sais pas, 20 personnes devant lui, de telle manière qu'avec son pain, il trempait la main, son pain, dans la sauce du plat, et puis il suçait son pain comme ça. Alors les courtisans, comblés, se précipitaient pour demander encore de cette sauce que les doigts augustes avaient touchée. Autre détail un peu délicat, je vais extrêmement vite, c'était un homme qui ne s'interdisait pas d'émettre des bruits barbares où il puisse se trouver, aux réceptions, au conseil d'État, enfin, tout ça. Et puis, c'était un homme qui travaillait dans la mufflerie, volontairement dans la mufflerie. Ses rapports avec les femmes comportaient cette tactique. Par exemple, il s'approche de mademoiselle Beugnot, c'est un conseiller d'État. Il lui dit, ah, c'est vous, mademoiselle Beugnot, j'aurais dû vous reconnaître avec le gros nez que vous avez, qui est tout à fait celui de votre père. À un autre moment, madame X, je ne me souviens plus, il lui dit, c'est vous, madame X? Tiens, mais on m'avait dit que vous étiez jolie. Pendant qu'il était en Allemagne, en 1804, qu'il était à Aix, il voit la femme d'un général, qui a épousé une Allemande, il sait parfaitement que c'est une Allemande. Et il lui dit à cette femme, il dit, qu'est-ce que vous avez sur le dos, là, une espèce de tapis, c'est vrai une robe ça? Vous devez être allemand, n'est-ce pas? Oui, sûrement, vous êtes allemand. C'est le genre. Sa culture maintenant. Eh bien, monsieur Bainville nous dit, monsieur, non, Madeleine nous dit qu'il avait un immense savoir. Je n'en crois rien du tout. On nous apporte un certain nombre de notes qu'il avait prises quand il était officier, soit à Valence, soit à Ossonne. Et si l'on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il y a 32 ouvrages qui ont été étudiés par lui, enfin sur lesquels il a pris des notes, en 2 ans et demi, trentaine d'ouvrages en 2 ans et demi, ça ne représente pas un monceau de lecture. Je vous ai déjà dit aussi que le chimiste Chaptal, qui avait été son ministre de l'Intérieur, s'était aperçu que la culture scientifique de Bonaparte était extrêmement courte. Chaptal exagérait peut-être, je n'en suis pas sûr, en disant que sa culture mathématique n'allait pas au-delà du Bezout, B-E-Z-O-U-T, le Bezout, qui était le livre de base des écoliers pour apprendre les mathématiques. Mais si cet homme est assez ignorant, il est très intelligent et il est capable d'apprendre en interrogeant. Ça, c'est ton truc habituel, vous savez. Dès qu'il est avec des spécialistes, des gens qui connaissent la matière, il les fait parler et avec ça, il s'instruit. Ce malheureux monsieur Madeleine, qui veut toujours nous en compter, raconte qu'à Rastad, en novembre 97, lorsque Bonaparte est allé là-bas pour préparer déjà ce qui sera plus tard le recèdre à Tisbonne, vous savez, le découpage de l'Allemagne, les négociateurs allemands, écrit M. Madeleine, furent stupéfaits et comme terrassés par les connaissances historiques que laissait percer ce soldat de 28 ans. La phrase est mal tournée, c'est pas laisser percer qu'il faudrait dire, c'est étaler. Le soldat de 28 ans étalait ses connaissances. Il ne connaissait rien à ces problèmes allemands. Mais il avait mis tout de même environ 5 jours pour aller de Milan à Rastad, en passant du reste par Genève, et dans sa berline, enfin dans sa voiture, il s'était fait donner de la documentation. Il avait lu, il avait été capable de parler en arrivant à Rastad, et de la bulle d'or, des traités de Westphalie, enfin en jeter plein la vue. Il n'y a pas de quoi se scandaliser, vous savez, tous les officiels en sont là. Maintenant, sa culture littéraire, elle est nulle. Plus exactement, il a des goûts très prononcés. Il déteste Chateaubriand, ça c'est peut-être pour d'autres raisons. Il ne sait que Voltaire, qui lui semble excellent. Ah ça, Voltaire, il ne met vraiment rien au-dessus. Même il aime le soir, quand il n'a rien à faire, il aime déclamer du Voltaire. C'était un exercice particulièrement redouté par son entourage. Et il va dire à Roederer, dans l'année 1802, qui est l'année du génie du christianisme, on peut en penser ce qu'on veut du génie du christianisme, il y a tout de même le talent de Chateaubriand. Et bien lui, Bonaparte, il dit, ça me dégoûte. Tout ce qui paraît aujourd'hui me dégoûte. Parlez-moi de la pucelle. Vous savez, c'est l'ignominie de Voltaire. Parlez-moi de la pucelle. Évidemment, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, disait Bonaparte. Mais pour un homme de mon âge, c'est vraiment très amusant. La musique. Une seule chose l'intéresse en musique, c'est le bel canto italien surtout. Maintenant, les beaux-arts. Eh bien, les beaux-arts, c'est lui qui va laisser tomber, de péricliter, toutes les églises romanes et gothiques de France, parce que ça n'intéresse pas du tout. Saint-Philibert de Tournus va tomber en ruine, et c'est Bonaparte, non, c'est même Napoléon, qui va vendre l'abbaye de Cluny à un démolisseur, à des gens qui sont des marchands de pierre à bâtir. Vous savez comment il avait transformé Notre-Dame, enfin Notre-Dame de carton, c'est son goût. Quant à la peinture, vous avez vu ce que c'est, la peinture sous Napoléon, c'est le genre, excusez-moi exactement le mot, c'est le genre pompier. Rendez-vous bien compte de ceci, que pour Bonaparte, les beaux-arts, c'est une annexe de la propagande, c'est pas autre chose. Les femmes, maintenant. Madeleine écrit, il avait l'ordre dans le sang, il le respectait dans sa vie privée, l'ordre, qui, en dehors de quelques passades, sera de mœurs rangées. Plus loin, dans le même livre, M. Madeleine fait disparaître l'incidente et dit, il était personnellement de mœurs rangées et même sévère. Sévère. Je sais bien qu'à Sainte-Hélène, il va encore dire à Bertrand, inépuisable Bertrand, vous savez, il lui dit, Henri IV, c'était un roi méprisable parce que ses amours étaient ignobles, les Français ont besoin d'un prince grave. C'est pourquoi il a voulu que dans sa cour, il y ait une affectation de puritanisme. Les femmes de mauvaise réputation, pas admises. Madame Tallien, chez qui il était rampant, enfin, il lui léchait les pieds quand il était en 95, surtout au moment où il avait été liquidé, vous savez, du 15 septembre 95 au 5 octobre, il était sans situation, il était tout enfourré chez la Tallien. Comme Madame Tallien a une assez mauvaise réputation, dès que la cour impériale est établie, Madame Tallien n'a plus le droit d'y entrer. Les femmes divorcées ne peuvent pas y entrer non plus. Il va obliger Talleyrand, l'évêque Talleyrand, qui vit avec Madame Grant, il va l'obliger à épouser Madame Grant. Donc, décorum, façade. Mais derrière, y a un Napoléon qui se divertit beaucoup. Il a le mérite, si vous voulez, de ne pas s'afficher. Ce que Audi Berti, dans un très joli texte, nomme ainsi, autour de la vie de Napoléon, une honnête rumeur d'adultère bourgeois. Frédéric Masson, qui à la fin du XIXe siècle était le grand spécialiste de Napoléon et qui a fait un livre sur Napoléon et les femmes, Frédéric Masson dit, allons, soyons sérieux, il s'adresse au lecteur mâle. Et il dit, bien entendu, qu'il a eu des maîtresses, mais enfin, comme tout le monde, enfin, quoi, comme tous les hommes mariés, pas plus. J'ai beaucoup admiré les capacités viriles de M. Masson quand j'ai essayé de faire un petit compte, enfin de ce que nous savons sur les liaisons de Napoléon. Victor Hugo passe pour avoir été un satyre, mais c'est un petit garçon, enfin c'est un enfant de cœur, à côté de Napoléon. Sa matière comestible, elle est incroyable. Il y a d'abord le personnel du théâtre, Mlle Bourgoin, il y a Mlle Georges, Mlle Mars. Il y a les femmes de ses employés, je devrais dire ses ministres, mais c'est ses employés. Mme Savary, Mme Marais, Mme Duchâtel, que son mari conseiller d'État. Il y a la femme de Junot, il n'a pas pu avoir la mère, vous savez, qui s'appelait Permont, la veuve d'un fournisseur, ça faisait beaucoup d'argent. Alors maintenant, il se venge en prenant la fille. Il y a l'électrice de ses sœurs, l'électrice de sa femme, il n'a qu'à faire un petit signe, naturellement, elles sont à ses pieds. Il y a les dames du monde, ou du demi-monde, qui sont procurées par des fournisseurs qu'il a. Ses fournisseurs, c'est Talleyrand, c'est Duroc, c'est Murat, c'est Junot. Et puis il y a la question des sœurs. Naturellement, les gens convenables disent, mais c'est monstrueux, enfin, qu'est-ce que vous allez insinuer là? Joséphine l'a répondu, elle a dit, Bonaparte a couché avec ses sœurs. Joséphine, elle était détestée par les sœurs. Alors c'est pas tellement étonnant qu'elle ait fait des ragots sur les sœurs. C'est pas, il y a Madame de Rémusat. Madame de Rémusat, elle n'a pas les mêmes raisons que Joséphine d'être méchante avec les sœurs. Et tranquillement, dans ses mémoires, Madame de Rémusat a dit, oui, toutes les trois sœurs de Bonaparte lui ont proposé leur faveur. Et puis il y a surtout Caroline, c'est Caroline l'a dit, publiquement. Caroline était très fière de dire qu'elle avait couché avec son frère. Je ne prendrai pas position, mais j'ai l'impression que c'est vrai. Puis il y a une question qu'on ne soulève jamais, que je voudrais soulever aussi, parce que je suis là pour essayer de voir la vérité, c'est l'homosexualité. Eh bien, je crois bien que quand il était à Brienne, Bonaparte était infiniment lié, trop étroitement lié avec un homme qui s'appelait Laugier de Bellecour. Et Laugier de Bellecour, il avait un surnom à Brienne, on l'appelait la nymphe. Et Laugier de Bellecour, il est parti avec Napoléon lorsqu'ils sont allés tous les deux à l'école militaire de Paris. Donc au moins 2 ans, il a vécu à côté de Laugier de Bellecour. Gourgaud, qui va l'accompagner à Sainte-Hélène. Gourgaud était un homosexuel, il était marié, mais enfin on peut être ambivalent. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que à cette époque-là, l'homosexualité n'était pas du tout considérée comme elle le sera au XIXe siècle et il y a quelque temps encore, comme quelque chose d'extraordinaire. Regardez dans la correspondance de la princesse Palatine autour des années 1660-70. Elle dit avec la plus grande tranquillité que 80% à peu près des courtisans chez Louis XIV à Versailles sont des homosexuels. Mais c'était admis. L'énorme scandale qui va se passer au début du XIXe siècle avec ce nommé Custine, qui va se faire chasser de la bonne société parisienne parce qu'il est visiblement homosexuel. C'était inconcevable au XVIIIe siècle et sous l'Empire. On souriait, on disait « Ah oui, de temps en temps enfin, ». Ben je crois qu'en effet, Napoléon, de temps en temps, faisait ces expériences-là. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ses rapports humains. Avec les femmes, déjà, il est bien entendu que c'est un homme pour qui l'amour n'existe pas. Il a là-dessus les paroles les plus nettes. En 91, il est jeune, il a 22 ans. « Je fus jadis amoureux, dit-il. » Jadis, ça devait être quand il avait 17 ans et qu'il était jeune officier à Valence, une demoiselle du Colombier. « Je fus jadis amoureux, mais je sais à quoi m'en tenir. Je n'ai plus besoin de définition métaphysique qui ne font qu'embrouiller les choses. » J'arrête là la citation. Puis encore un peu plus loin. « Je nie son existence, l'amour. Je fais plus que la nier. Je dis que quand un homme s'imagine que l'amour existe, cela ne peut être que nuisible à son bonheur. » Par conséquent, c'est un concret, hein, comme vous le savez, pour l'argent. C'est un réaliste. L'amour, c'est une petite secousse et pas autre chose. Qu'on ne l'ennuie pas avec des définitions métaphysiques, ça n'existe pas. C'est un homme pour qui les femmes sont un objet. Et bien, dans ses rapports humains, avec les hommes aussi, tous les hommes sont des objets. J'ai là-dessus un certain nombre de textes à vous apporter qui sont assez cruels. À Bourrienne, il va dire carrément ceci, « Je n'aime personne. » À Roederer, le 12 novembre 1813, « Les femmes, je les compte pour rien. Mon fils, oui, un peu, encore qu'il soit de sang autrichien. Je suis l'homme du calcul sec. » On nous raconte qu'il aurait versé des larmes, enfin qu'il aurait les yeux pleins de larmes lorsque Lannes, son ami Lannes, a été tué à Essling. Ben écoutez comment il va parler de Lannes plus tard à Sainte-Hélène. Lannes, dit-il, il était comme né et comme tous les autres. Il était prêt à m'ouvrir le ventre s'il y avait vu son intérêt. C'est pas très étonnant qu'un homme comme Chaptal, qui donc était ministre de l'Intérieur de Bonaparte, qui l'a vu de très près, disait c'était cet éloignement total qu'il avait pour les êtres qui rendait sa société si sèche. À l'égard des hommes, il déclare qu'il y a deux ressorts. Et c'est vrai, la crainte et l'intérêt. Il faut leur faire peur et il faut leur montrer un avantage. Et puis, si ce sont les deux ressorts des hommes, lui, il a deux moyens d'agir, c'est éblouir et c'est corrompre. Éblouir, parce qu'il est là, terriblement lucide, et il considère que l'âge mental de l'humanité, c'est quelque chose comme 10-12 ans. Et que par conséquent, plus on raconte des absurdités aux gens, plus ils y croient. Et quand on sourit, de la manie qu'il a de donner des trites et des décorations, mais il dit, mais je sais bien ce que ça vaut, mais c'est avec ça qu'on fait marcher les hommes. L'éblouissement, les costumes. Il a l'impression que quand on épate les gens avec des dorures, c'est comme ça qu'on les a. Corrompre maintenant. Il faut savoir qu'il a un goût véritable de l'indélicatesse. Il racontera à Bertrand avec beaucoup de joie ce qu'il avait découvert dans son premier voyage en Corse quand il était officier et qu'il a retrouvé l'archidiacre Luciano. C'était le seul membre riche de la famille. Alors vous pensez si on le soignait. Et il avait fait la petite découverte que voici. Cet archidiacre de la cathédrale d'Ajaccio se faisait des petits bénéfices secrets. Il était déjà pas mal payé comme archidiacre, mais les petits bénéfices que voici. Lorsque les galères françaises, lorsqu'une galère française avec les galériens venait se ravitailler à Ajaccio, Luciano, l'archidiacre, était un des fournisseurs de viande des galères. Et Bonaparte s'était aperçu qu'il trafiquait, l'archidiacre, avec le capitaine de la galère. Le capitaine faisait un achat, par exemple, de 200 francs et faisait une facture de 400 francs. Les 200 francs de différence, c'était l'État qui les payait, mais on divisait en deux. Il y avait 100 pour lui, le capitaine, puis il y avait 100 pour Luciano. Ça amusait beaucoup Bonaparte. Il avait été intelligent, mon homme. D'autre part, il se vantera également, devant Bertrand, de ceci. Quand il avait fait venir son petit frère Louis, qui avait 12 ans et demi, quand il avait fait venir à Valence, au moment de son deuxième séjour à Valence, on jouait dans l'hôtel. Oh, vous savez pas grand-chose, mais enfin, on jouait dans les 40 sous 3 francs. Et c'était la tenancière de l'hôtel qui jouait. Bonaparte avait repéré que la tenancière trichait. Alors il en a parlé à la tenancière, il lui a dit qu'il allait la dénoncer, à condition qu'elle accepte de mettre le petit Louis dans son jeu. Alors ils vont tricher ensemble, et c'est comme ça, dit-il, que Louis arrivait à se faire 2 à 3 francs par jour. 2 à 3 francs par jour, à ce moment-là, c'était plus que ce que gagnait un ouvrier. Il a le goût des malhonnêtes gens. Il aime à s'entourer de canailles, et il le dit. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va chérir, si je puis dire, Talleyrand. Et il y a une phrase de lui extrêmement claire là-dessus. Il y a longtemps que j'ai constaté que les gens honnêtes ne sont bons à rien. D'autre part, il est persuadé que tout s'achète. Il essayera d'acheter beaucoup de gens, en particulier Metternich, qui va même lui proposer 10 millions, mais ça ne réussira pas. Et il a c'est une erreur de calcul, là, parce qu'il pense que s'il achète les gens lui auront de la reconnaissance. Or, la reconnaissance, c'est une vertu. Et comme il est convaincu que la vertu n'existe pas, c'est là où il se trompe. Il y a le cas des soldats. C'est un cas particulier. Vous savez, la légende de Bonaparte, j'en parlerai dans mon dernier entretien, la légende de Napoléon, le fait que les vieux soldats parlaient de lui avec une espèce d'admiration teintée de tendresse. C'est un cas particulier, il faudrait essayer de comprendre. Attention d'abord, hein, dans l'immense armée de Napoléon, il y a un petit groupe, c'est la garde qu'il aime, Napoléon. Parce qu'on est fasciné. Il y a la fascination du chef qui est toujours victorieux. Il y a la légende de l'invulnérabilité. C'est vrai qu'il s'est très souvent exposé physiquement et que les boulets semblaient l'éviter. Ça donne aux soldats l'impression qu'ils sont conduits par un homme tout à fait exceptionnel, un homme qui a une étoile, en fait, qui est marqué par le destin. D'autre part, il y a l'émulation, bien sûr. Enfin, il promet des grades, il promet des avancements, il donne beaucoup de décorations, il donne de l'argent aussi à ses grenadiers. Mais ça n'explique pas cette espèce d'élan que ces gens avaient pour lui. Et c'est un fait, ils avaient cet élan. Je sais qu'il y a la griserie du coup de fusil, je sais qu'il y a ce phénomène mystérieux dont parle Victor Hugo, la chair à canon amoureuse du canonnier, dit Victor Hugo. C'est vrai, il y avait ça chez lui. Il avait une grande démagogie militaire, vous savez, il allait souvent dans les casernements, il allait s'asseoir sur les tambours, il allait rire aux éclats, aux plaisanteries les plus bêtes qu'on faisait autour de lui. Il jouait même avec les soldats, il mettait son enjeu, puis il riait quand il perdait ou il empochait quand il gagnait. Et puis il se vantait d'avoir le sens de l'éloquence militaire. Alors là, je vais vous en donner une petite démonstration, parce qu'il était tellement fier de lui que le 9 février 1819, à Bertrand, il va dire ceci. Je savais comment parler aux soldats. Je disais aux voltigeurs, vous êtes de fameux couillons, regardez les grenadiers. Un grenadier, mais ça vaut 20 voltigeurs. Puis j'allais voir les grenadiers et je leur disais, vous êtes que des capons, vous n'avez donc rien entre les jambes, des femmes quoi. Parlez-moi les voltigeurs, en voilà des gaillards, eux. Et il ajoutait, satisfait, avec ça, on fait tuer tout le monde. Je crois qu'il est important aussi que vous sachiez ce que l'on ne dit jamais, que j'ai trouvé avec surprise. C'est une note du 14 février 1806 au ministre de la Guerre, où, pour le divertissement des soldats, Bonaparte conseille de leur offrir des combats de fauves afin d'entretenir chez eux le goût du sang. Ce qui frappe le plus quand on se tire d'un individu de près dans son comportement, c'est qu'il est tout le temps en représentation. C'est un homme perpétuellement affecté, c'est un histrion, quoi, si vous voulez. Il a un certain nombre de numéros. Il a son numéro Matamor, son numéro Léonin, si vous voulez. Par exemple, lorsque, en mars 1804, la déclaration de guerre étant intervenue avec l'Angleterre, il dit « J'irai planter mes drapeaux sur la tour de Londres ou je périrai ». Ben, il ne plantera rien du tout sur la tour de Londres, il n'ira pas et il périra tranquillement dans son lit. Mais c'est une formule qu'il aime et vous la verrez reprise par lui. Il y a encore un autre genre, par exemple, on prétend, dit-il, que pour bien savoir commander, il a fallu d'abord savoir bien obéir. Quelle erreur ? Moi, j'ai jamais obéi, j'ai toujours commandé. Ben, elle est bonne là aussi, parce que dans le genre obéir et dans le genre flagornerie, au moment où il y avait les représentants, vous savez, quand il leur léchait les pieds, il savait parfaitement obéir. Ça, c'est donc son côté matamor, si vous voulez. Il y a le côté travailleur, l'homme que rien ne lasse, l'homme qui travaille du matin au soir. Je travaille dans mon lit, je travaille au théâtre, je travaille partout, dit-il. Mais non. Il a été très travailleur et à mesure que les années passent, il devient moins. Il était très dormeur, il a toujours été très dormeur, 7 à 8 heures de sommeil quand il était consul, 10 à 11 heures de sommeil quand il est empereur. Mais comme il faut donner l'impression qu'il est travailleur permanent, il a demandé à son valet de chambre de mettre 2 candélabres, 2 flambeaux, devant sa fenêtre des Tuileries, celle qui donne sur l'extérieur, afin que toute la nuit, les gens qui puissent passer dans la rue se disent « L'empereur est encore au travail ». L'omniscience, l'homme qui sait tout, même dans le moindre détail. En réalité, dit Molien, je me suis aperçu à bien des reprises qu'il me donnait des affectations d'argent, enfin, quand il était le trésorier, affectations pour tel poste, alors qu'il avait déjà disposé de cette somme pour tel autre. Les ministres de la guerre reconnaîtront aussi que Napoléon, de temps en temps, envoyait des effectifs à tel endroit, alors que le même régiment, il l'avait déjà envoyé à tel autre. Il a des colères affectées, car après une très grande colère, il va demander à ceux qu'ils ont là de lui tâter le pouls, pour montrer à quel point il était incapable de se mettre véritablement en colère, parce qu'il savait conduire son personnage. C'est l'homme des changements à vue. Il est capable, en un instant, de devenir un autre. Il est froncé, il est grave, il passe une porte, alors de l'autre côté, c'est la jovialité du type le plus épanoui, au point de s'asseoir sur les genoux de son visiteur, quand il veut obtenir quelque chose de lui. Et il dira à Bertrand, je couperai la citation, « Quand j'ai besoin de quelqu'un, je serai capable de lui baiser le... » Bon. Ce qui est le plus remarquable chez lui, c'est deux choses. Le goût d'insulter, et le goût de duper. Il insulte ceux qui peuvent pas se défendre, parce qu'il est tout puissant. Et il dupe. Ça, c'est ce qui lui plaît le plus. Il va dire à l'abbé de Pratt, non, c'est l'abbé de Pratt qui dit, l'empereur est tout ruse, ruse doublée de force, mais il attache plus de prix à la ruse. Que de fois il m'a dit, je suis fin, je suis terriblement fin. Il me semble d'ailleurs que quelqu'un qui se vante de sa finesse en marque immédiatement les limites. L'abbé de Pratt dira, lui, c'était Jupiter Scapin. C'est dur, Jupiter Scapin. Mais il est vrai que le personnage que je viens de vous décrire compose un personnage de cirque, vous ne trouvez pas, assez réussi. Le malheur, c'est que ce clown, au lieu de piétiner dans la sueur, c'est dans le sang qu'il patauge. Quand on essaye de trouver chez lui quelque chose qui marquerait de la hauteur, quelque chose qui lui donnerait une autre dimension, on ne le trouve pas. Comparez-le donc à Hitler, par exemple, qui est un autre ravageur. Hitler, c'était un homme assez tragique qui avait le contact de la foule. Bonaparte déteste la foule, il a peur. Jamais vous ne trouvez chez Bonaparte quelque chose qui ressemble à cette espèce de souffle tellurique et démoniaque qui semblait soulever de temps en temps le dictateur nazi. Quand on le voit de près, c'est un petit bourgeois, usant de très grosses ficelles, cyniquement, et servi par une chance admirable. De même, voyez-vous, de même que son aigle était un vautour, lui-même personnellement me fait beaucoup moins penser à un lion qu'à une espèce de petit chacal affublé d'une crinière.